strong prayer. Et je voudrais justement vous encourager à prendre les cantiques qui sont nouveaux. Vous avez une cassette qui a été circulée pour une vingtaine. Et aussi avec Alicia fourni une liste des cantiques qui se chantent sur les mêmes airs que des cantiques que vous connaissez déjà. Un peu plus tard, nous planifions aussi d'avoir des cassettes de tous les nouveaux cantiques chantés. Alors, pourquoi un nouveau recueil de cantiques? Bien, autant que je sache, c'est le premier recueil qui sera conçu spécifiquement pour le repas du Seigneur. C'est un phénomène de longue date que les Canadiens français se plaignent parce que les Anglais ont tant d'avantages. Et bien sûr, du côté matériel, c'est pas notre devoir d'améliorer la terre, mais du côté spirituel, nous voudrions certainement que vous puissiez connaître plus cette même richesse. Et j'ai à cœur que, en langue française, il y ait autant d'enseignements. C'est pour ça que j'exerce encore un ministère ici, mais j'ai encore plus à cœur que le repas du Seigneur puisse être célébré avec la même richesse dans l'adoration. Et avec ce nouveau recueil, le nombre de cantiques sera pas tout à fait autant que nous avons dans notre recueil de langue anglaise, mais ça va être bien plus proche que tout autre recueil a été. Et je sais que ça prend un certain effort d'apprendre quelque chose de nouveau. Souvent les jeunes ont hâte de voir quelque chose de nouveau, mais souvent ce n'est pas de nouveau en fait de profondeur. Et souvent les moins jeunes sont portés à penser bien, on est trop vieux pour changer, on est bien avec ce qu'on a déjà. Mais je voudrais exhorter tout le monde à faire l'effort de prendre les nouveaux cantiques, parce que si vous en sentez pas le besoin, c'est parce que vous savez pas qu'est-ce que vous manquez. Alors, d'ici deux semaines, je pense l'avoir terminé, et je rends grâce au Seigneur de son aide à compiler et à produire ce recueil qui a pris bien des longues heures de travail pendant des mois de temps, même souvent jusqu'à des journées de 16 heures. Et alors, en vue du fait que vous aurez ce nouveau recueil de cantiques bientôt, j'avais au cœur de faire des méditations ce soir et dans 15 jours sur l'expression cantique nouveau dans la Bible. On trouve cette expression 9 fois dans la Bible, dont 6 fois sont dans les psaumes et 3 fois dans des livres prophétiques. Et les références dans les psaumes que nous allons méditer ce soir parlent des bénédictions que nous avons sur la terre, alors que les 3 fois dans les livres prophétiques parlent de notre vocation céleste. Quand ça dit dans la Bible, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, l'idée n'est pas forcément de composer un cantique qu'on n'a jamais eu avant, mais c'est l'idée que le cœur déborde tellement de louanges et de gratitude qu'il semble qu'on ne trouve pas les mots. Et alors on voudrait qu'un nouveau cantique soit composé, pour ainsi dire, dans l'espoir que ça fournisse le moyen d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, parce que avec ce qu'on connaît déjà, on ne trouve pas les mots. Alors c'est un cœur qui déborde, qui fait désirer des cantiques nouveaux. Les références où on trouve cette expression dans les psaumes parlent d'un cœur qui déborde à cause de nos bénédictions sur la terre. Parce que les psaumes étaient les cantiques chantés par le peuple terrestre que Dieu avait dans l'Ancien Testament. Israël était son peuple dans l'Ancien Testament et il l'appelait à être son peuple terrestre et il le bénissait avec des bénédictions terrestres. Mais malgré le fait que pour nous, dans le Nouveau Testament, nos bénédictions principales sont célestes, et nous sommes un peuple céleste, néanmoins, pouvons-nous nier que Dieu nous bénit abondamment même déjà sur la terre? Bien sûr que non. Et alors, nos cœurs aussi devraient déborder à cause des bénédictions que nous avons déjà sur la terre. Alors que les livres prophétiques qui parle du règne millénaire de Christ et de l'état final de l'univers, nous nous parle alors de comment notre cœur devrait déborder à cause de notre vocation céleste et de nos bénédictions qui nous attendent déjà, qui nous attendent dans l'avenir, et à cause de la bénédiction que c'est déjà de savoir que nous sommes un peuple céleste. Donc ce soir, nous voulons regarder les références de cette expression dans les psaumes qui parle de nos bénédictions que nous avons déjà sur la terre. Et puis dans 15 jours, nous regarderons les trois références dans des livres prophétiques parlant d'un cœur qui déborde à cause de notre vocation céleste. Donc tournons dans les psaumes où nous allons trouver les 6 références et nous allons les grouper en trois paires de références à cette expression en cantique de nouveau. Le premier, c'est dans le psaume 40. Le psaume 40 et le verset 4. Psaume 40 et verset 4, où nous lisons j'aimerais commencer au verset 2, mais la référence est au verset 4. Au verset 2, nous lisons, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Et alors, les deux premières références dans les psaumes à cette expression en cantique nouveau parlent de délivrance divine, que Dieu nous délivre. Cette référence parlant de la délivrance de notre propre misère, c'est-à-dire ce que nous sommes en nous-mêmes de nature. Les versets que nous venons de lire sont comme si ça pourrait décrire une conversion, parce que, bien sûr, dans la vie inconvertie, nous étions comme dans le fond de la boue, et dans une abîme, dans une fosse de destruction, et l'Éternel nous en a délivrés. Et certainement, chaque fois que nous pensons aux merveilles de notre salut, ça devrait faire déborder nos cœurs. Mais cette description pourrait parler aussi de la délivrance d'un péché qui semble avoir le dessus dans nos vies. Et c'est de toujours, il semble des luttes vaines pour le vaincre, puis finalement le Seigneur nous en a donné la victoire, parce que nous avons appris comment compter sur sa puissance pour y résister. Ça aussi c'est une délivrance de notre propre misère, et qui pourrait être également décrite par ce verset. Et qui n'a pas de témoignage qui pourrait raconter de comment un certain péché semble avoir le dessus dans sa vie pendant un temps, et que malgré qu'il voulait l'arrêter, il tombe toujours dans la tentation, et puis finalement, le Seigneur lui a donné la victoire en lui apprenant à compter sur son secours, et maintenant le chrétien peut-être qu'il... Il faudrait avouer qu'il y chute de temps à autre, mais il peut dire qu'en général, il a la victoire. Bien, quand nous pensons à une telle expérience, est-ce que ça fait déborder nos cœurs? Ça devrait. Mais il y a une autre référence qui emploie cette expression et qui parle aussi de délivrance divine, qui se trouve dans le psaume 144 et le verset 9. Le psaume 144 et le verset 9. Et là nous lisons, « Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, etc. » Et alors, ici, il s'agit de la délivrance des menaces d'en dehors. Le psaume 40, verset 4, parlait de délivrance de notre propre misère causée par ce que nous sommes en nous-mêmes. Mais voici une délivrance des menaces qui viennent du dehors, que Dieu ait sauvé David du glaive meurtrier. et ça peut aussi être des délivrances de différentes sortes. Quand est-ce que David était menacé par le glaive meurtrier? Bien, en premier, c'était quand il était destiné à devenir le roi, mais il ne l'était pas encore, et le roi Saül le poursuivait, essayant de le trouver afin de le mettre à mort parce qu'il était jaloux de David. Et dans ce cas-là, il s'agissait d'une persécution injuste. David n'avait rien fait pour mériter que Saül envoie à sa vie, mais Saül le poursuivait et persécutait. Et le chrétien doit s'attendre aussi à souffrir de la persécution injuste, parce que tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Néanmoins, Dieu nous délivre, et qui a connu de la persécution ne peut pas témoigner du fait que quand même Dieu l'a délivré merveilleusement à différentes reprises, et est-ce que ça ne fait pas déborder nos cœurs? Mais il y a eu une autre période dans la vie de David aussi où il était menacé par le glaive meurtrier. C'était quand son fils Absalom le poursuivait. Et là, il ne s'agissait pas d'une persécution injuste, parce que la fuite de David devant Absalom était une des conséquences de son grand péché avec Bathsheba. Vous vous souvenez quand Nathan, le prophète, lui avait parlé, il lui avait dit qu'à cause de ce péché, l'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison. Et alors voilà une des conséquences. Et certainement, les péchés de notre passé peuvent avoir des conséquences, mais devons-nous tout simplement nous y résigner et avec un esprit qui taffe, mais qui n'a pas plus de délivrance que ça? Loin de là, parce que quand même, malgré que la fuite devant Absalom était une des conséquences du grand péché de David, néanmoins, il pouvait avoir confiance en Dieu pour le protéger et pour le délivrer, parce que son péché était quand même pardonné. Nathan lui avait dit, quand David a dit « J'ai péché contre l'Éternel », Nathan lui a dit « L'Éternel t'ôte ton péché », autrement dit, il a pardonné et tu ne mourras point. Et alors, malgré que David avait à souffrir les conséquences de ce péché, il savait que le péché était pardonné et ne devait pas continuer à avoir des remords et avoir l'esprit dans l'abattement parce que Dieu le délivrait. Et tout de même, malgré que nos péchés ont bien attristé le Saint-Esprit, néanmoins, nous ne devons pas avoir l'esprit dans l'abattement parce que s'il y a une voix qui nous faire constamment des reproches encore pour des péchés pardonnés, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Satan. Satan est appelé l'accusateur des frères qui nous accuse devant Dieu jour et nuit, mais le même verset dans l'Apocalypse dit que nous pouvons le vaincre par le sang de l'agneau. Donc nous avons des délivrances divines de la persécution injuste et aussi des accusations contre nous pour des péchés que nous avons bien commis, mais qui sont pardonnés. Est-ce que de telles délivrances font déborder nos cœurs? Est-ce que nous apprécions le fait que Dieu nous a délivrés de notre propre misère et de toute menace du dehors? Bien, si nous apprécions ces délivrances, nous devrions faire ce qui est décrit comme chanter un cantique nouveau, c'est-à-dire que nos cœurs débordent tellement que nous cherchons les mots ou le moyen de l'exprimer parce que nous ne le trouvons pas. Chantons un cantique nouveau à cause des délivrances divines. Mais il y a aussi deux références qui nous disent de chanter un cantique nouveau à l'Éternel à cause d'un désir divin. Parce que Dieu nous désire et nous trouvons ce désir d'abord dans le psaume 96 et verset 1. Psaume 96 et verset 1. Où nous lisons, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, ou ça peut se traduire également sa délivrance, c'est-à-dire le fait que Dieu nous délivre parce qu'il s'occupe de nous. Et alors, ce psaume exprime la joie du fait que Dieu s'occupe de nous et il nous a à cœur. En contraste avec les faux dieux mentionnés au verset 5 où il a dit « Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. » Alors, en contraste avec les faux dieux, l'Éternel, le vrai Dieu, s'occupe de son peuple. Il a son peuple à cœur, alors que les faux dieux des nations s'en fichaient du bien-être du peuple. Alors aujourd'hui, peut-être que nous ne connaissons pas grand-chose de l'adoration de statues comme les idoles de l'Ancien Testament, mais n'importe quoi qui prenne dans notre vie la place que Dieu devrait avoir, c'est une idole. Et les choses dont le monde fait ses idoles, est-ce qu'ils ont le peuple en cœur? Est-ce qu'ils ont en cœur le bien-être de ceux qui les adorent? Or, bien sûr, les idoles sous forme de statues étaient sans intelligence, qui n'entendaient rien, qui pouvaient rien faire. Mais même quand c'est une personne que le monde traite en idole, est-ce que cette personne a ses adorateurs en cœur? Par exemple, le monde fait souvent des idoles des athlètes professionnels. Pensez-vous que l'athlète professionnel a à cœur le bien-être de la personne qui le traite en idole? Ou le monde traite en idole les vedettes de cinéma? Est-ce que les vedettes s'occupent de ceux qui les traitent en idole? Bien, vous savez bien la réponse, ils s'en fichent. En contraste avec l'Éternel, qui a son peuple à cœur, qui le désire et qui veut son bien. Nous avons aussi l'assurance, selon le verset 10, que l'Éternel règne avec justice. Dit parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde affirme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. N'est-ce pas une assurance merveilleuse de savoir que, quoi que Dieu permet d'arriver dans notre vie, il va faire ce qui est juste. Nous avons l'assurance qu'Abraham avait quand il a dit « Le juste de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est droit ?» Et il y a une autre référence qui parle de ce désir divin, ce désir pour nous, pour que Dieu s'occupe de nous. Le psaume 149 et verset 1, en plan encore cette expression « cantique nouveau », psaume 149 et verset 1, montrant que qu'est-ce que Dieu nous désire, en plus du fait qu'il s'occupe de nous et il a notre bien à cœur, il désire aussi notre communion, parce que nous lisons psaume 149, 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. » Et puis, le verset 4 nous explique pourquoi le peuple est tellement dans la joie et veut chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Le verset 4 dit « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. » Alors l'Éternel nous désire. Ça fait la troisième fois de suite que je fais référence à ce fait, mais ça devrait nous toucher le cœur que l'Éternel désire notre communion, et pour cela il a demandé aux Israélites de lui faire un sanctuaire pour qu'ils puissent habiter parmi eux, en contraste avec les faux dieux et les faux espoirs qui ne désirent pas le peuple. Est-ce que ça nous touche le cœur de savoir que Dieu nous désire et qu'il nous a désiré à un tel point qu'il a donné son Fils pour nous racheter au prix de son sang afin de nous avoir? Dieu nous désire, et en conséquence, il s'occupe de nous, il a notre bien à cœur, et il désire la communion avec nous. et les Israélites expriment dans le psaume 49 combien leur cœur déborde de reconnaissance du fait que Dieu désire leur communion, qu'ils veulent pousser des cris de joie, oui, même sur la couche pendant la nuit, selon le verset 5. Tout le psaume est rempli de louanges parce que le cœur déborde. Est-ce que ça nous touche le cœur de savoir que Dieu nous désire? Si oui, alors nous devrions être dans ce même esprit qui est exprimé par le désir de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Nous avons lu deux références disant que nos cœurs devraient déborder à cause des délivrances divines, deux références disant que nos cœurs devraient déborder à cause d'un désir divin, et il y a encore deux références dans les psaumes disant que nos cœurs devraient déborder à cause de la domination divine, le fait que l'Éternel domine sur toutes choses. Et la première de ces deux références dans le psaume 98, psaume 98 et verset 1, où nous lisons « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. » Et de ce psaume, nous apprenons alors que l'Éternel domine surtout par sa puissance. Avez-vous remarqué que la question de sa droite, mais qui sera mieux et plus littéralement traduite, sa main droite. Alors, sa main droite et son bras saint lui sont venus en aide. Nous trouvons ces expressions ailleurs, et c'est une façon de faire des mesures comparatives de la puissance de Dieu pour différentes œuvres. Nous ne pouvons pas mesurer la puissance de Dieu en unité, mais il y a une façon de faire des comparaisons. Le psaume 8, verset 4 nous dit que les cieux sont l'œuvre seulement des doigts de Dieu. La version Louis II dit les mains, mais une traduction plus littérale comme la Darby dit ses doigts. Donc, créer l'univers a pris seulement les doigts de Dieu. Alors que sauver une âme, c'est le travail de la main de Dieu, parce que Ésaïe 59 en dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Alors, seulement les doigts de l'Éternel pour créer l'univers, mais pour sauver une seule âme, ça prend la main de l'Éternel. Mais il y a encore une comparaison. Soutenir le croyant dans sa vie de tous les jours, ça prend le bras de l'Éternel. Parce que dans le cantique parlant des bénédictions sur les différentes tribus d'Israël, dans Deutéronome 33, nous lisons que Dieu soutient et porte son peuple par ses bras éternels. Alors voilà toute une façon de voir combien ça prend de puissance de Dieu pour son œuvre en nous. Créer l'univers a pris seulement ses doigts. Sauver une âme prend sa main, mais soutenir un croyant dans sa vie de tous les jours, ça prend le bras de l'Éternel. Et pourtant, une telle puissance nous est fournie pour que nous puissions vivre, d'abord naître de nouveau et puis vivre pour lui. Et c'est à cause alors de sa puissance fournie d'une telle façon que Dieu domine sur toutes choses. Mais nous apprenons d'un autre psaume que Dieu domine aussi par sa vérité. Dans le psaume 33, verset 3, c'est la dernière référence dans les psaumes à cette expression « un cantique nouveau ». Psaume 33 et verset 3, nous lisons « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix ». Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est-à-dire, ce que l'Éternel a annoncé, il le fait. On peut compter dessus, parce que l'Éternel est le Dieu de vérité. Au verset 8, nous lisons que les habitants de la terre devraient trembler, parce que l'Éternel voit tout, et il voit qu'est-ce qui est vrai. Verset 11, dit que les descendants de l'Éternel subsistent toujours. Et le verset 18 nous dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Parce que l'Éternel voit tout, il sait ce qui se passe, il sait ce qui est vrai, et il nous assure que, en fin de compte, c'est la vérité qui va triompher. Ceci peut nous consoler quand nous voyons la vérité de la parole de Dieu rejetée dans le monde de nos jours, et souvent même la parole de Dieu est tordue par des chrétiens ou chrétiens de nom. Ils emploient la parole de Dieu, mais ils en tordent le sens. Mais c'est une consolation pour nous de savoir que ce qui est absolument selon la parole de Dieu, selon la vérité, va triompher en fin de compte. Est-ce que nous réjouissons? Sommes-nous contents de savoir que Dieu domine sur toutes choses malgré les apparences et que ce qui est vrai va finir par triompher? Si nous nous réjouissons de ces faits, nous devrions aussi avoir l'esprit dans cet état qui pousse à vouloir chanter un cantique nouveau. C'est-à-dire parce que ça déborde tellement que nous ne trouvons pas les mots avec les moyens que nous avons déjà, donc nous voudrions un cantique nouveau dans l'espoir de pouvoir exprimer adéquatement combien notre cœur déborde. Notre cœur devrait donc déborder à cause des délivrances divines si nous les apprécions. Il devrait déborder à cause du désir divin que Dieu nous désire si ça nous touche le cœur, et il devrait déborder à cause de la domination divine si nous nous réjouissons du fait que Dieu domine sur toutes choses. De telles pensées, alors, même sur les bénédictions que nous avons déjà sur la terre, devraient faire déborder nos cœurs de louange et de gratitude pour que nous cherchions de nouvelles façons de l'exprimer. Mais certainement, la plus grande de toutes les bénédictions que nous avons sur la terre est le fait de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, et de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et est-ce que nous apprécions ce privilège-là au point que nos cœurs en débordent? Si oui, alors, ça devrait être une joie pour nous de voir de nouvelles façons de l'exprimer. Et même si nous ne pouvons pas littéralement avoir un cantique nouveau tous les jours, c'est plutôt une façon figurée de dire que nous, nos cœurs débordent et que nous ne trouvons pas les mots. Néanmoins, dans le prochain avenir, vous aurez littéralement des cantiques nouveaux qui seront un moyen d'exprimer ce débordement du cœur à cause du privilège de connaître le Seigneur Jésus et de l'adorer en esprit et en vérité. Allons-nous alors démontrer un débordement du cœur en chantant à l'Éternel des cantiques nouveaux. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, il est vrai que même si notre vocation est céleste, même si nous sommes ton peuple céleste et que nos plus grandes bénédictions sont dans les lieux célestes, néanmoins, tu nous bénis abondamment déjà dans cette vie sur la terre. Et c'est assez pour faire déborder nos cœurs si nous arrêtons un moment pour y réfléchir. Et il est vrai que souvent nous passons des moments sombres où nous oublions combien tu nous as bénis. Mais quand nous y pensons de nouveau, tu fais déborder nos cœurs. Et nous te prions alors de garder nos esprits dans cet état exprimé par le désir de chanter un cantique nouveau. Nous savons aussi que quand nous serons au ciel, enfin nous aurons le moyen d'exprimer adéquatement la reconnaissance et la louange qui déborde de nos cœurs. Mais en attendant, nous voudrions te le dire et te célébrer parce que tu nous as bénis si abondamment grâce au fait que ton Fils nous a rachetés par son sang et a fait de nous ton peuple. béni sois-tu de ton si grand amour, au nom de notre précieux Sauveur. Amen.